Dans les lectures aujourd'hui, encore beaucoup de choses. Moi, je vous dis ce que j'ai vu, hein, mais voilà. Paul donc s'adresse aux Corinthiens avant de les quitter. Si je ne m'abuse, puisqu'il a passé 3 ans avec eux. Et puis, nous entendons quelques conseils tout d'abord. Alors, notamment, veillez sur vous-même. Je me permets de m'arrêter sur cette première demande en constatant que ça n'est pas veiller sur le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi responsable et aussi sur vous-même. Mais veillez d'abord sur vous-même. Est-ce que nous veillons chacun sur nous-mêmes? C'est une question. Est-ce que nous prenons soin de notre âme? Est-ce que nous recourons à ce qui nous permet d'être attentifs à l'Esprit Saint? Car comment est-ce qu'on peut prendre soin des autres si on n'est pas à l'écoute de l'Esprit Saint, si on n'a pas appris à entendre nos propres besoins, nos propres désirs, fussent-ils mauvais, pour pouvoir les discerner? Et se dire, ok, je fais quoi devant ça? Plutôt que de vivre en gosse de riche et finir par ce que dit, je ne sais plus, c'est Paul ou un autre. C'est Jésus qui dit ça. Quoi te servirait de faire plein de choses si toi, tu n'es pas sauvé? Voilà, il y a une charité qui doit être intelligente et non pas marquée par l'orgueil. Donc veiller sur soi-même, bon ça regarde un peu chacun. Ensuite, la phrase qui m'a frappé, c'est « il s'est acquise par son propre sang ». Dieu s'est acquis l'Église par son propre sang, le sang de Dieu fait homme. Petite parenthèse. Il arrive très souvent à la messe, quand il y a des célébrations avec un peu de monde, et qu'on distribue donc la communion aux gens, que reste sur l'autel le calice, qui n'est pas vide, qui contient donc toujours du précieux sang suite à la consécration, et au fait que les prêtres ne l'ont pas encore absolument consommé, ou bien le diacre qui doit faire les ablutions, et revient le ciboire avec les hosties, on réunit les hosties, on fait une belle génuflexion, on le met au tabernacle, on refait une belle génuflexion, on ferme le tabernacle et tout le monde s'assoit. Et le précieux sang est toujours sur l'autel. Comme si Jésus était présent que dans l'hostie, quoi. C'est évidemment extrêmement scandaleux au sens étymologique du terme, puisque ça instille dans l'idée de tout le monde que bon, le précieux sang, ouais, bon. De toute façon, on ne le distribue pas, donc bon. Bah, excusez-moi, je ne sais pas, hein, je sais pas ce qui passe par la tête des gens. Voilà. Le précieux sang, c'est. Dans précieux sang, il y a précieux. Et c'est le sang de Jésus qu'il a versé à la croix. Il y a une dévotion au précieux sang, là, hein, Saint Gaspard del Buffalo, je crois. Les démons redoutent l'invocation du précieux sang de Jésus. Parce que techniquement, bah, c'est ça qui a causé sa mort. Et quand on leur parle de ça, ça leur rappelle des mauvais souvenirs, d'autant qu'ils sont toujours actuels, ces souvenirs. Voilà, dans son propre sang, quel rapport nous avons à cette vérité théologique? On peut trouver ça un peu sanguinaire, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis un jour, on est touché en se disant, non mais, vous savez, c'est, est-ce que c'est Catherine de Sienne, je ne sais plus, qui rigolait de je ne sais quoi, et Jésus lui apparaît et lui dit, moi, c'est pas pour rire que je t'ai aimé. Il faudrait que cette parole, un jour, dans notre vie, nous transperce le cœur. Et que la blessure causée ne guérisse jamais. Donc voilà, son propre sang, Bon, il annonce ensuite que ça va barder, qu'il y a des gens qui vont aimer le pouvoir. Vous savez, ces gens qui viennent vous sauver, que vous le vouliez ou non, et qui pensent avoir une mission, et qui n'ont pas même conscience d'aimer le pouvoir, et qui vont assez facilement orienter les choses. On ne va pas dire manipuler, mais orienter les choses, voir les personnes, du coup ça devient de la manipulation. Donc être vigilant, pour le dénoncer ou pas, mais être vigilant, être lucide sur ce qui se passe. Et puis on arrive donc au remède. Le remède, c'est je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce. Je ne sais pas si cette expression vous a frappé. La parole de sa grâce, mais qu'est-ce qu'il dit? Faites attention, nous avons très souvent l'habitude d'entendre des paroles auxquelles on ne fait plus attention. Dans un autre contexte, on nous dit Jésus leur annonçait la parole. Mais ça ne veut rien dire, ça. On n'annonce pas une parole. Vous avez vu un livre dans le monde où il y a écrit annoncer la parole? Ça n'existe pas, il n'y a que dans l'Évangile qu'il y a ça. Alors ça veut dire quoi? Bon, je referme la parenthèse, on en parlera une autre fois. Mais là, la parole de sa grâce, c'est quoi la parole de la grâce de Dieu? Ben, en fait, c'est le Verbe, quoi, c'est Jésus. En fait, c'est Jésus. C'est Jésus qui construit l'édifice dont il est la tête. Donc, en fait, Paul nous confie à la parole de Dieu, à la parole de Jésus, à l'Évangile. Est-ce que nous allons prendre l'Évangile comme un bout de papier dont on tourne les pages ou comme un livre dont on se nourrit indéfiniment et qui produit en nous des fruits? Dans un cas, on est un chrétien potentiel, dans l'autre, on est un chrétien, un croyant en marche. Et puis, il parle de ceux qui ont été sanctifiés. Alors ça, c'est très intéressant parce que dans l'Évangile, on nous parlera aussi de sanctification. Sanctifier, hein, je rappelle l'étymologie de sanctifier, ça veut dire mettre à part. Sanctus, ça veut dire séparer. Kadosh, en hébreu, ça veut dire séparer. Donc on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Ça ne veut pas dire qu'on est méprisant, ça veut dire que ce qui nous attire, ce n'est pas la vie du monde. Ce n'est pas l'aboutissement du monde, de devenir riche, puissant, avoir du plaisir, enfin que sais-je, tous ces trucs qui sont bien, intéressants, mais qui alourdissent l'âme quand on en fait un usage immodéré. Donc, sanctifier. Voilà. Bon, je passe, hein. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Il faut secourir les faibles. Alors là, j'ai un petit agacement, là, parce que dans les évangiles, il y a toujours écrit, dans les épîtres de saint Paul et dans les actes, il y a toujours écrit les faibles. Et en fait, ils ne sont pas plus faibles que les copains, ils sont juste malades. Si vous allez regarder le terme grec, hein, eh bien, vous verrez que ce sont les malades. L'héritage parmi ses sanctifiés, venir en aide à ceux étant malades, asthenunton, voilà, les asthéniques, à ceux étant malades. Alors c'est quoi un malade? Quelqu'un qui a besoin du médecin. Et les gens qui sont plus malades que les autres, peut-être faibles du coup, pour me réconcilier avec cette traduction, ont besoin de plus d'attention. Un enfant plus faible dans une maison, dans une famille, a besoin d'une attention différente. Dans l'armée, chacun sait que le maillon faible, il va falloir en prendre un soin. Donc soit le supérieur, le commandant, le que sais-je, dit « Ok, un tel, je m'en occupe et tout le monde est rassuré », soit il ne le fait pas et c'est la panique, parce qu'on ne sait pas ce que l'autre va pouvoir faire. Voilà, donc c'est important, vous voyez, d'avoir secourir le pauvre. Des pauvres, vous en aurez toujours, dit Jésus. Et puis alors, il y a la finale, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc ça, cette parole, on ne sait pas d'où elle sort, c'est peut-être de Jésus, elle n'a pas été notée. Bon, dans l'Ancien Testament, on a Illarem datorem diligit Deus, Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est pas exactement ça. Là, c'est donner le bonheur qu'il y a à donner. Donc, je pense que pour comprendre cette phrase, il faut en faire l'expérience. Et puis, la finale. Alors, avant, oui, vous savez, je voulais rajouter ça parce que c'est en accord avec hier. Hier, il nous disait « Je n'ai rien négligé ». Et là, j'ai pleuré, j'ai travaillé, les mains qui vous assis, etc. Bon, ouais, vraiment, il montre que techniquement, il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait. C'est impressionnant hein, d'arriver à la fin d'une mission en disant « J'ai fait tout ce que je pouvais bon. ». Est-ce qu'on en est là? Et puis la finale, moi j'appellerais ça le passage des ados. Alors ils se mettent tous à pleurer, sniff, il est parti, qu'est-ce qu'on va devenir? Enfin, vous savez, le truc un peu pathétique. Comme si au fond ils n'avaient rien compris de ce qu'il vient de leur dire. Et on comprend pourquoi il y a des loups rapaces qui vont se descendre sur eux. Parce qu'ils sont encore dans des sentiments, dans du sentimentalisme, etc., etc. Ils se sont attachés à un homme plus qu'à la parole qu'il disait. Enfin, certains, en tout cas. Donc ça, ça peut aussi nous parler. Et on arrive avec ça à l'Évangile, qui s'ouvre avec une parole tout à fait bouleversante, « Les yeux levés au ciel ». Alors, peut-être ça ne vous frappe pas, c'est une parole qu'on entend à toutes les messes, au moment de la consécration. Levant les yeux au ciel. Au moins dans le canon romain, mais je pense que... Oui, enfin je sais, maintenant je n'arrive plus à m'en souvenir, mais je sais qu'au moins il y a ça dans le... Elevatis oculos. Levant les yeux au ciel. Vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. Donc, c'est une parole de consécration. C'est important de réaliser que, au moment de la consécration, il y a cette demande d'unité dans le nom. Alors, c'est quoi le nom? Il est une question quatre ou cinq fois du nom. C'est quoi ce nom? Ben, c'est le nom que le Père a donné à Jésus. Quel est le nom que le Père a donné à Jésus? Eh ben, c'est celui que le messager de garde a transmis à Marie, Jésus. Et c'est quoi le nom que le Père a donné à son fils? C'est Dieu sauve. Donc Jésus a rempli la mission, il rend son nom. Et il dit, voilà, j'ai veillé sur eux, sauf celui qui s'en va à sa perte. Alors là, évidemment, il y aurait aussi à discuter. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, a priori, ça désigne Judas. Ah bon, alors Judas, ben, en fait, il s'est fait avoir, parce que tout ça, c'est pour que les Écritures s'accomplissent. Donc, en fait, enfin, vous savez, tout le tralala, quoi, on n'est pas libre, c'est lamentable, c'est de l'abus d'autorité. Je pense que s'il n'y avait pas eu Judas, il y aurait eu quelqu'un d'autre, parce que c'est dans la nature de l'homme. De livrer ce qu'on ne comprend pas ou ce qu'on ne veut pas comprendre. C'est le résumé de beaucoup de discours politiques aujourd'hui. Quand vous ne comprenez pas, vous livrez en pâture. Et je ne vois pas pourquoi ça aurait commencé avant-hier. Voilà. Bon, maintenant, je botte en touche, hein, j'ai conscience. Voilà. Alors après le nom, il y a la joie. Pour qu'ils aient en eux ma joie. Donc ce que Jésus vient de dire, je viens vers toi pour qu'ils aient en eux ma joie. C'est curieux, hein, je pars pour qu'ils soient heureux. C'est-à-dire que tout soit accompli. Ils vont être heureux parce qu'ils vont pouvoir... vous savez, la joie de l'enfant qui a appris de son papa à faire du vélo, allons-y pour le vélo, et puis c'est le jour où on enlève les roulettes. Et puis ça marche, quoi. Et le gamin, il est heureux, parce que, voilà, bon. En fait, il n'y a plus l'aide, il n'y a plus le soutien, on lui fait confiance. On lui fait confiance. C'est certainement un des secrets de l'évangélisation aujourd'hui. Apprendre, réapprendre à faire confiance à ben, la génération plus jeune, qui n'est pas l'Église de demain, mais qui est l'Église d'aujourd'hui, merci pour eux, apprendre à leur faire confiance, pour que eux-mêmes puissent aussi faire confiance aux vieux bonzes ou aux anciens, sans se dire « ouais, on est jugé, que sais-je ». Vous voyez, donc ils sont dans la joie, et alors Jésus ne veut pas une joie, « ouais, ouais, c'était bien ». Non, non, comblé, rempli. Rempli. Est-ce que nous cherchons une joie remplie ou oh non, c'est bien, là j'ai eu 2 sur 20, faut pas en demander trop, quoi. Non, Jésus demande 20 sur 20 en joie. Et donc je leur ai donné ta parole. Ben, c'est lui, la parole de Dieu. Et il s'est donné à eux. Et tout ce qu'il a dit, il venait de Dieu. Voilà, ben, c'est... Que tu les gardes du mauvais. Voilà, je ne prie pas pour que tu retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Alors là aussi, vous pourriez dire, ouais, ben pas moi. Parce que moi, j'ai beau... Ben, à chaque fois, ça ne marche pas, quoi. Et au fond, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas chez moi? Qu'est-ce qui poserait un problème? Ben, peut-être que précisément, je ne garde pas la parole. Ah ben si, je la lis le matin. Ouais. Et tu es au courant qu'il y a 24 heures dans la journée. En fait, je la lis, je la referme et c'est bon quoi. J'ai coché la case. Non, la parole de Dieu, c'est l'agenda de la journée. Donc je la prends, je la reprends. Si j'arrive pas à être gardé du mauvais, c'est que j'ai pas la parole en moi. Alors il faut que j'en fasse plus. Ah bah oui, mais alors il va falloir que je fasse plus ça. Ouais. C'est mieux de faire ça ou la vie éternelle, tu préfères quoi? Oh bah la vie éternelle, c'est pour demain, ok, d'accord. J'espère que tu seras en vie demain, et puis on verra, quoi. En fond, est-ce que nous prenons au sérieux, voyez? En question des gosses de riches, hein, dont je parlais tout à l'heure encore. Est-ce que nous prenons le précieux sang au sérieux? Et puis arrive la sanctification. Sanctifie-les dans la vérité. C'est-à-dire dans la parole, encore une fois. La parole de Jésus est vérité. Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Est-ce que nous nous séparons pour suivre Jésus? Donc oui, il faut se séparer. Jésus l'a dit, je suis venu mettre la division, hein. Ah bah oui, mais alors toi, tu es tout le temps en train de prier. Pas tout le temps en train de prier, je lis la parole de Dieu. Ah oui, mais enfin, il y a d'autres choses intéressantes. Ah ouais, quoi? Ça s'arrête quand? Moi, la parole de Dieu, ça ne s'arrêtera jamais. Vraiment, je ne sais pas comment le dire intelligemment, parce que c'est pas très fin ce que je dis, hein, j'ai conscience, mais il y a un moment où si vous avez expérimenté que l'amour de votre vie, c'est Dieu, quelle que soit votre situation de vie d'ailleurs, eh bien, à un moment, ça va produire quelque chose qui va vous dire non mais ça va quoi. Il y a quelque chose qu'il faut que je fasse en plus ou en moins. Qu'est-ce que je dois lâcher? Peut-être c'est l'iPad, peut-être c'est le téléphone, peut-être c'est des fréquentations pas opportunes, peut-être c'est une détente bêtasse, peut-être c'est un excès de travail, peut-être c'est une morosité, enfin, sanctifier, séparer. Eh bien, séparons-nous pour la vérité, qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité de Dieu qu'est Jésus.